L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter en fait les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. La liberté, force vive déployée, est le thème du Printemps des poètes, dont la 28e édition bat actuellement son plein. La poésie, c'est un genre littéraire dont les spécificités de forme sont, vous me l'accorderez, très marquées. C'est un genre qui peut ainsi paraître abstrait, opaque, orphéen, du nom du premier poète, Orphée. C'est un genre difficile, en somme. En librairie, donc, le mois de mars est celui de la poésie. Nous la célébrons à l'Épluche Libre, par des rencontres, des lectures musicales, des mises en avant d'œuvres poétiques, culturelles, diverses, variées et surtout vivantes. L'émission que vous allez écouter entre dans ce mouvement.
Qu'est-ce que ça peut faire ? Il était une fois un amour si formidable que les fils de rois. Il est belle au bois dormant, nous l'envions beaucoup. L'histoire de nous.
Caroline de Freitas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup, merci de l'invitation.
Mais avec plaisir. Alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que vous êtes arlésienne de naissance.
Plus précisément Beau-5, des Baux-de-Provence, et j'ai aussi vécu à Arles plusieurs années.
Et vous êtes lilloise d'adoption.
Exactement.
Vous signez donc, en ce début d'année 2026, un recueil qui est paru chez la toute jeune maison d'édition de poésie, Le Bout de la Langue.
Les éditions du Bout de la Langue, oui, c'est bien ça.
Donc, ce recueil s'intitule « Et je vivrai 10 fois ».
Oui.
Est-ce que vous pouvez, avant d'entrer plus en avant dans ces textes, dans ce recueil de poésie, nous parler, présenter votre parcours de poétesse ?
Oui, bien sûr. J'ai eu une entrée en poésie qui s'est plutôt faite par les arts plastiques depuis mon plus jeune âge, je dirais, par une pratique, libre, j'ai pas eu d'enseignement académique dans ce domaine, mais ça a été la première expression poétique pour moi, et aussi dans une manière d'éprouver poétiquement le monde de par mon enfance, dans une nature assez sauvage, et aussi par le côté multiculturel et plurilingue que j'ai pu avoir pareil dans l'enfance. C'est des choses qui ont contribué à développer chez moi un rapport sensible et poétique au monde. Et puis plus tard, en rentrant dans l'âge jeune adulte, j'ai démarré une pratique de l'écriture régulière. Mm-hmm. D'abord l'écriture d'un journal, rituel ou exercice que j'ai toujours aujourd'hui. Et à force d'écrire, on se rend compte, c'est un joli lapsus, et on se rend compte aussi que, je me suis rendu compte que je pouvais rentrer dans une matière textuelle qui m'appartenait, avec peut-être quelque chose qu'on dirait un style d'écriture un peu à soi. Et c'est de là qu'est née une écriture poétique, donc mon écriture journalière devenait une pratique poétique de l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à envoyer des manuscrits en édition, donc à faire face à plusieurs refus au départ, et puis avoir une une maison d'édition qui a publié mon premier recueil en 2022. Suite à ça, il y a eu d'autres publications de poèmes en revue. Mmh. Et c'est l'année dernière que j'ai eu, à l'été 2025, une réponse favorable des éditions du bout de la langue qui ont décidé de publier ce recueil-là, et je vivrai 10 fois.
Donc, un recueil qui vient de paraître. Alors, c'est intéressant dans votre présentation, puisque c'est un des sujets au long cours de cette saison radiophonique à l'Épluche Livre, les habitudes d'écriture et le processus créatif. Vous expliquiez, d'accord, en parlant de votre passé en poésie, de votre venue en poésie, que l'écriture est pour vous journalière. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
C'est toujours le cas. Oui, je n'écris pas des poèmes tous les jours, je n'écris pas 5 ou 10 pages tous les jours. Par contre, j'écris tous les jours des choses qui rentrent pour moi dans de l'écriture poétique. Même si ce sont que des jets ou des pensées, mais c'est toujours des impressions, des pensées qui sont déjà dans une forme poétique.
Donc c'est une pratique quotidienne, c'est une pratique à laquelle vous vous astreignez par discipline ou par besoin ?
Les deux. D'abord par besoin, toujours par besoin. Et plus régulièrement, je me donne la discipline d'écrire tous les jours au moins 5 lignes. Mmh. Voilà, 5 lignes seulement, quelles qu'elles soient. Donc, j'essaie de mêler les deux maintenant.
Et quel est votre contexte d'écriture, votre environnement, que ce soit d'un point de vue du lieu, tout simplement, environnement matériel ou d'une ambiance sonore, peut-être ?
Oui. Alors, si j'écris, dans ma pratique quotidienne de l'écriture, il va y avoir la pratique idéale, ça va être l'écriture avec mon premier café le matin, en ayant le temps vraiment d'écrire. Donc ça, c'est la pratique idéale. Et en travaillant la semaine comme enseignante, j'ai pas toujours le temps ou l'énergie de le faire, mais si je le fais pas le matin, je vais avoir cette pratique-là l'après-midi. Mm-hmm. Donc c'est des moments, disons, plutôt de retour à soi et d'entrée en écriture. Sinon, j'écris un peu partout et j'aime beaucoup écrire et je me sens très inspirée dans les cafés ou dans les lieux, les autres espaces de vie quotidienne qui n'appartiennent pas forcément à l'écriture, donc le métro par exemple, mmh. énormément le train, beaucoup de personnes écrivent dans les trains et je fais partie de ces personnes-là. Voilà, ça fait partie des lieux et des espaces que j'utilise, que j'habite pour écrire. Et sinon, le grand idéal, ça reste les plongées dans l'écriture. Et dans ce cas-là, c'est sur des plus longues périodes de vacances. Mmh.
Donc ce sont des plongées créatrices avec un objectif de recueil ?
Oui, c'est ça. Dans l'idée, oui, d'aller écrire un recueil et donc de commencer à réunir et de mettre en forme la structure et le fil qui va conduire à un recueil de poèmes.
Mmh. Je reprends un petit peu. Vous parliez d'entrée en écriture, vous parliez de retour à soi et d'espace habité. Alors, j'ai eu le plaisir d'accueillir Nour Kadour au micro il y a quelques mois à Divergence FM. Donc, Nour Kadour, qui est l'une des co-éditrices des éditions du Bout de la Langue, justement. Et elle parlait de son écriture à elle, qui revenait aussi, selon ses dires, à habiter un lieu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez en commun ? Vous avez déjà discuté de cette notion ?
Alors, on en a déjà discuté. On a un peu ça en commun, en effet. Pour moi, revenir à un lieu à l'intérieur de soi où on va trouver la poésie, où on va rencontrer la poésie. Chez moi, ça passe beaucoup par le corps, donc un retour à mon corps aussi, souvent quand je plonge en écriture créative, j'aime bien pouvoir avoir un espace où me déployer pleinement. Donc ça peut être aussi en ayant un autre moyen d'expression, et ça va être de la peinture, puisque je peins également, pouvoir soit beaucoup marcher ou faire du sport, ou vraiment lier le corps physique à l'écriture et la musicalité de l'écriture poétique.
D'accord, très bien. Donc il y a ce concept d'écriture créative aussi, de poésie créative, que je trouve très, très beau, et qui peut-être vient apporter une nuance donc, à ces notions que vous avez en commun, du moins une différence par rapport à votre travail et à celui de votre éditrice. Mais c'est quelque chose qui était important pour vous et important peut-être pour la maison d'édition de partager des valeurs d'écriture ?
Alors, on n'a jamais posé ces mots-là, mais je pense que oui, il y avait ça en fond. En tout cas, la certitude, c'est qu'il était important pour les à la fois les éditrices et aussi moi d'être alignées sur des valeurs humaines communes et aussi sur la manière dont on aime vivre la poésie et la place qu'elle occupe en fait. Donc en pensant et en éprouvant la poésie comme un lieu de rencontre, de pont entre les personnes, pas seulement les personnes qui lisent et qui écrivent par ailleurs, mais vraiment comme un espace qui permet de réenchanter le quotidien, de réenchanter le monde et particulièrement par les temps qui courent. Et ça, c'est vrai que c'était un point important de se retrouver sur ces valeurs-là qui sont des valeurs humaines avant tout, et du coup où la poésie va encore plus sublimer cet amour-là, quoi.
Oui, oui, oui. Et donc cette maison qui fait lieu d'espace poétique commun. Pour terminer la première partie de notre émission, est-ce que, étant donné que vous avez parlé de votre métier à côté donc de professeur,
oui,
est-ce que sous ce prisme-là, vous auriez des conseils d'écriture à donner à nos auditeurs ?
Alors, des conseils plutôt en tant qu'enseignante, c'est ça ?
Oui, dans une posture un peu de transmission, ou peut-être vous ne vous sentez pas du tout à l'aise dans ce rôle ?
Non, je peux. Alors, le seul conseil d'écriture que je pourrais donner, c'est celui d'écrire, quel que soit ce qu'on écrit, mais de se dire que de faire la paix et de faire équipe avec l'écriture, avec le geste d'écrire, même si ce ne sont pas des mots qui sortent. Ça peut être des gribouillis, ça peut être des dessins, ça peut être des impressions, mais de créer un partenariat avec soi-même en développant la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, parce que c'est ce que je dis à mes élèves, c'est ce que je me dis à moi, et c'est vraiment une conviction profonde. C'est peut-être enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais quelque chose et un lieu qui aide à grandir vraiment. Et puis on grandit à tout âge. Voilà. Et c'est bien d'avoir un tuteur pour grandir aussi, même quand on a 40, 50 ou 60 ans. Et je trouve que l'écriture et la poésie et aussi la pêche aux mots qu'on aime, aux vers qui vont nous parler, aux extraits sonores qui vont résonner en nous, les annoter quelque part, les garder avec soi, ça fait office d'accompagnante et de tuteur pour nos vies, quoi, notre quotidien.
Oui, oui. Et puis pour que ces mots sortent de cet espace à soi, de cet espace poétique que vous habitez si bien. Je laisse la régie lancer le morceau que vous avez choisi de partager avec les auditeurs de l'émission.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs,
Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir. Ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Oui, Caroline ?
Oui,
oui. Alors voilà. Je cut Zao pour que ensuite la régie puisse rattraper le temps pour justement cette horloge qui va sonner à 30.
Ok, ça marche.
Ça vous va? Donc oui, je fais un petit clap pour que tu puisses ensuite.
Ok.
Vous écoutez L'Épluche Livre. Nous sommes en compagnie de Caroline de Freitas, poétesse et autrice. Donc Caroline, vous avez publié 2 recueils à ce jour. Et je vivrai 10 fois, donc, dont nous avons parlé en première partie d'émission, ainsi que Je ne dérange pas les souvenirs, sur lequel nous allons développer dans les minutes qui arrivent. Nous avons écouté le titre donc, de Zao de Sagazan, La symphonie des éclairs. Oui. C'est un titre qui est important pour vous en ce moment ?
Oui, alors le contenu de la chanson, le texte, c'est un texte qui résonne fort, que je trouve sublime et qui me touche particulièrement et que j'écoute régulièrement en boucle depuis des mois et d'accord. des mois, et je suis pas sûre de m'en lasser un jour.
D'accord. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement ?
Je trouve qu'il y a une pureté, déjà dans la voix de Zao de Sagazan. Mm-hmm. J'aime beaucoup le timbre de sa voix. J'aime aussi tout l'instrumental, voilà, tous les musiciens et musiciennes qui l'accompagnent. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a une clarté dans ses propos, dans ses intentions, son intention artistique aussi. C'est des émotions qui sont à la fois simples et profondes et qui parlent à tout le monde et à tous les âges. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, ces lieux, ces moments où on peut, voilà, les lieux, les espaces, les chansons, les spectacles mmh. qui parlent à tout le monde et
c'est
à tous les âges.
C'est un espace commun, un espace d'art
exactement.
Commun, c'est ça
mmh. Oui, c'est ça. Et je trouve que cette chanson-là, elle réussit très bien ça, et elle parle voilà, de quelque chose d'universel, quoi.
Pour rebondir sur, sur l'universel, sur les espaces communs. Je voulais revenir sur les deux épigraphes que l'on trouve en ouverture donc, de votre recueil « Et je vivrai 10 fois ». Donc, vous citez Soie de la Bise et Carole Bijoux, qui sont deux poétesses. Je pense que ces épigraphes ne sont pas là pour rien, notamment Soie de la Bise. « Dans un monde parfait, les doigts d'une seule main devraient suffire à compter les jours sans tendresse ».
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ces mots ?
Pour moi, c'était une évidence de pouvoir citer Soie de la Bise dans mon recueil, puisque c'est, je pense, une de mes poétesses préférées. En tout cas, chez les contemporains, c'est ma poétesse préférée. Ces mots me trouvent à chaque fois. Et je suis convaincue, pour moi, ce qu'elle a écrit là, c'est politique. Voilà. Mm-hmm. La tendresse est politique, on a besoin de ça, on doit la défendre, il me semble qu'en tant qu'être humain et citoyen et puis artiste ou poète, c'est nécessaire dans notre société de maintenir cette tendresse-là et de veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Donc voilà, 10 doigts, enfin 5 doigts, seulement, ça suffit, pas plus.
Et donc la tendresse et le rire, puisque vous citez Carole Bijoux, rire à l'aube quand tout se lève et ne plus avoir peur, sauter de son lit et que chaque jour soit fête et que chaque jour soit. Là aussi, c'est un acte politique de faire que chaque jour soit une fête.
Oui, que chaque jour soit une fête, un rire, et même au-dessus des nuages, quoi, comme le dirait Zao de Sagazan. Mm-hmm. C'est pour moi, autant la chanson que ces deux, enfin, l'extrait de Carole Bijoux ou de Soie de la Bise se retrouve en quelque sorte, quoi. Mm-hmm. Je trouve ça important d'aller trouver le doux, d'aller trouver la tendresse, d'aller trouver une forme d'émerveillement. Alors pas un émerveillement, niais non plus, hein, mais d'aller trouver vraiment la justesse, la beauté au pied du lit, quoi.
Regard d'enfant sur ce qui est.
Exactement. Chance inouïe. Je trouve, même si les temps sont difficiles, on a quand même beaucoup de chance et il faut vraiment pas l'oublier sans rentrer dans une forme de culpabilité du quotidien aussi, de dire bon, allez, on a beaucoup de chance ou quoi que ce soit, mais célébrer en tout cas nos existences, quoi.
Et donc dans Et je vivrai 10 fois, on retrouve une nouvelle notion, du moins dans la lecture que j'en ai faite, qui est de la passion. De la passion amoureuse, charnelle, le corps est très présent en tant que lieu même de cette passion. Là, donc on est très loin, entre guillemets, même si bien sûr ça constitue une vie, du sujet donc de votre premier recueil. Cette passion, c'est quelque chose que vous avez expérimenté, c'est quelque chose que vous avez imaginé pour le recueil.
Un peu les deux, je dirais. Expérimenter, oui. Moi, j'ai été vraiment biberonnée à l'amour, à voilà, la passion amoureuse. J'ai été une vraie amoureuse pendant de nombreuses années.
En tout cas, les poèmes sont forts et la passion, c'est-à-dire que la passion fait mal. La passion peut être douloureuse aussi.
Je trouve l'état amoureux vraiment beau. Sublime, il m'inspire beaucoup, je pense qu'il m'inspirera toujours et c'est un état qui est assez précieux. Et j'ai aussi voulu écrire cette passion et le côté volcanique que ça pouvait faire éprouver. Et en même temps, justement aussi tout le redoux autour, tout ce qu'il y a de juste simplement beau dans le simple choix d'aimer. On peut choisir de brûler, on peut choisir aussi de ne pas brûler et de juste s'envelopper de tendresse comme ça et de douceur. J'ai essayé de rentrer dans les nuances
de l'amour. Montrer qu'on peut choisir la tendresse et le rire.
Voilà.
Aussi. Donc, les minutes filent, et je voulais quand même citer votre tout premier recueil, Je ne dérange pas les souvenirs, donc là, qui était paru aux éditions Milo, qui est un recueil d'adieu, si on peut, de poèmes autour de la perte. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous le décrire ?
Oui, c'est un recueil qui est une forme de témoignage poétique au départ de l'autre et qui fait un état des lieux de cette espèce de morcellement au moment du départ de l'autre, en l'occurrence d'un très proche, quoi, d'un parent, et ces moments de désemparement et de perte totale de repères, tant au niveau de la personne qui part, de ceux qui restent, des soignants aussi, mais j'avais besoin et j'ai voulu écrire sur la toute fin de vie, justement par la poésie, parce que je trouvais pas ça ailleurs. Et pour moi, c'était aussi un moment plein de vie. Voilà, c'était un peu l'intention de ce premier recueil.
Merci beaucoup. Merci de poser les mots sur ces moments que nous traversons tous. Donc, nous arrivons au terme bientôt de cette émission.
Oui.
Je crois qu'on pourra vous retrouver, sauf erreur, le 22 avril sur Montpellier. Oui.
Tout à fait.
Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Donc justement à la librairie Les Plus Livres pour une rencontre avec une de mes éditrices, donc Anne Plantier, et puis la libraire accueillante et moi-même.
C'est super, on sera ravis, en tout cas il me tarde. Je profite donc de la thématique de cette émission. Je vous le rappelle, donc le mois de mars est le mois dédié à la poésie en librairie, donc on célèbre le printemps des poètes. Et on célèbre aussi, on rend hommage donc à Sandrine Bourouba, qui nous a quittés récemment, à travers une exposition hommage à la librairie, qui sera visible jusqu'au 29 mars. Merci beaucoup, Caroline.
Merci à vous.
Et merci à encore. Très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle, et on mange des cornichons, de la moutarde.